Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci à vous tous qui êtes disposés à suivre notre grande édition du journal du matin, dont voici les titres. En Ituri, le nombre de personnes déplacées a fortement baissé, passant d'1,5 million à environ 1 million. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Bunia Bruno Lemarquis au sortir de sa rencontre avec le gouverneur de l'Ituri. Il déplore cependant la poursuite des violences perpétrées par des groupes armés. C'est ce qui continue à maintenir des milliers de personnes dans la précarité. Nous irons ensuite au Nord Kivu où plusieurs localités dans le territoire de Walikale sont privées d'eau potable depuis environ un mois à cause des combats récurrents entre les rebelles du M23 et les groupes locaux d'autodéfense dans la région. Le point de captage situé sur le mont Moulema avait subi d'importants dommages. La maladie à virus Ebola continue à faire des victimes dans la province du Kasaï. 43 cas dont 15 décès sont déjà enregistrés. Cette épidémie est méconnue de certains habitants. Alors, comment faire pour l'éviter? Pour en parler, nous recevons Dr Jean-Pierre Sumba, chargé de la maladie à la Division provinciale de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour. À Ituri, le nombre de personnes déplacées a fortement baissé, passant d'1,5 million à environ 1 million. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Bunia Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires. C'était lors d'un point de presse au sortir de sa rencontre avec le gouverneur de l'Ituri. Il déplore cependant la poursuite des violences perpétrées par des groupes armés, ce qui continue à maintenir des milliers de personnes dans la précarité. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Après une rencontre qualifiée de franche et cordiale avec le gouverneur de l'Ituri, Bruno Lemarquis a souligné qu'un tiers des déplacés ont pu rentrer chez eux ces derniers mois grâce à une amélioration relative de la sécurité dans certaines zones. Mais ce retour contraste avec la poursuite des violences commises par les groupes armés parmi lesquels la CODECO, les ADF, Zaïre ou encore la CRP. Ces exactions continuent de contraindre des milliers de familles à mener une vie d'errance. Le responsable onusien rappelle aussi la baisse drastique des financements humanitaire. Seulement 15% des besoins sont couverts cette année en RDC, ce qui réduit fortement les activités sur le terrain. Face à cette situation, il invite les autorités provinciales à encourager le retour volontaire des déplacés et à promouvoir des solutions durables, notamment appuyer les activités économiques des retournés et lutter contre l'exploitation illégale des minerais, ce qui alimente en grande partie les conflits en Ituri. Il a enfin plaidé pour la protection des humanitaires afin qu'ils puissent avoir accès aux zones où les besoins sont pressants. Bunia, Jean-Claude Loki, Tile, Radio Kapi.
Restons à Ituri. Plus de 100 abris des personnes déplacées du site de Kingonzi ont été détruits par une forte pluie accompagnée de vents violents ce mercredi à Bunia. Le service provincial de la protection civile parle également des installations hygiéniques touchées par ces phénomènes naturels, ce qui accentue davantage les souffrances de ces vulnérables qui vivent déjà dans des conditions inhumaines. Martial Kizabiamongu nous fait le point.
Au total, 114 abris de fortune ont été touchés par la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bunia ce mercredi en début d'après-midi. Plusieurs toilettes et toitures bâches ont également été emportées par le vent, déplore le service de la protection civile qui parle de murs écroulés. Les services provinciaux de la protection civile alertent sur cette catastrophe naturelle qui va obliger ces familles de passer la nuit à la belle étoile avec tous les risques des intempéries, surtout des enfants. Nous ne savons pas aujourd'hui comment nous allons dormir avec les nombres galopants de déplacés que nous continuons à accueillir, s'interroge ainsi Désiré Grodia, le président du comité de déplacés du site de Kigonzi. Il lance un appel au gouvernement et aux humanitaires de leur venir en aide avec des bâches. Le site de personnes déplacées de Kigonzi à Bunia compte plus de 5000 ménages. Certains sinistrés ont trouvé refuge auprès d'amis et familles au sein même du camp. Bunia, Martial Kigonzi. Moïse Abiyabongo, Radio Okapi.
Et puis, clôture ce mercredi à Genève de l'exposition sur les génocides congolais perpétrés pour des fins économiques Génocost. Elle a été organisée par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fonarev. Cette activité de 3 jours s'est tenue sur la place des Nations en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Selon les organisateurs, l'objectif de cette activité était de mobiliser la communauté internationale sur les crimes graves commis en RDC. Des tableaux des artistes congolais qui expriment les souffrances des femmes, des enfants, des familles déchirées par la guerre ont été exposés dans un stand. On écoute le ministre d'État à la justice, Guillaume Ngefa, qui explique la symbolique de cette exposition au micro d'Alain Irung, l'envoyé spécial de Radio Kapi à Genève.
Pendant 3 jours, nous avons entendu les témoignages, vu les images, contemplé les œuvres. Ces récits ne sont pas du passé. Ils sont encore la réalité de milliers de Congolais aujourd'hui. L'objectif de cette exposition, en parallèle du side event et du dialogue interactif au Conseil des droits de l'homme, était clair. Ouvrir les yeux, toucher le cœur et réveiller les consciences. Comme l'a rappelé son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'agit pas de comparer les douleurs ou d'opposer les communautés. Il s'agit de dire la vérité et de demander justice et d'exiger la solidarité internationale. Chaque image, chaque témoignage est un appel, non pas à la vengeance, mais à la vérité, à la mémoire et à une paix fondée sur la justice.
Au nord Kivu, nous l'avions dit en titre, plusieurs localités du territoire du Kobo, en territoire de Walikale, sont privées d'eau potable depuis environ un mois. En cause, une répétition des pannes sur les réseaux d'adduction. Au plus fort des combats entre les rebelles du M23 et les groupes locaux d'autodéfense dans la région, le point de captage situé sur le mont Moulema avait subi d'importants dommages. Depuis lors, l'organisation locale COGEP tente des réparations sans succès. La société civile Noyau de Bouleoussa alerte sur la situation et en appelle à une urgente intervention des autorités et des partenaires. On écoute Grâce Bourouteré, leader communautaire et membre de la société civile de Bouleoussa.
Vraiment,
le besoin le plus urgent, c'est celui de l'eau potable. Dans le groupement, il y a plus ou moins 14 000 habitants qui sont affectés par cette pénurie, notamment à Bouleoussa, Katrissa, Kilambo, Bukumbiroa, Rusamambo, Bushimba. Vraiment, l'eau, c'est une grande difficulté. La population en est privée. Il serait d'un grand apport que les différents partenaires et les autorités appuient l'initiative locale de l'organisation COGEP en lui dotant d'une machine de fusion susceptible de permettre des interventions en cas de panne. Et toutefois, pendant ce temps, la population endure d'énormes souffrances.
L'ex-professionnel des médias et acteur politique Jacky Ndala est bien vivant, bien que son état de santé soit préoccupant. Il souffre notamment de problèmes rénaux. Il lui faudrait une bonne prise en charge médicale et pourquoi pas un transfert à l'étranger pour des soins accompagnés de sa famille. Ses propos sont de maître Eric Bissello, membre du collectif de ses avocats. Pour lui, son client ne devrait plus être en détention puisqu'il est bénéficiaire d'une mesure de grâce présidentielle depuis décembre 2024. Pour le moment, Jacky Ndala a été transféré depuis mardi soir à l'hôpital général de référence de Makala ex-sanatorium pour des soins selon Maître Bissello. Au téléphone de Babel Mpongo Massimango, Maître Eric Asselo plaide aussi pour une intervention en vue de la libération de cet homme des médias et activiste politique.
Jakindala a arrêté en novembre 2024 pour usage de faux, propagation de faux bruits et fortement malade. Et pourtant, proche de la fin, il a alerté sa famille et l'opinion. Il n'a pas faibli par rapport à ses engagements politiques. Il a des problèmes rénaux, il a des problèmes également liés à la condition dont son nom de raconter. Il a été transféré à l'hôpital Sana. Ce sont des problèmes qui ont commencé lors de sa dernière arrestation auprès des services des renseignements. À plusieurs reprises, il en a fait cas devant les tribunaux, mais on n'en a pas tenu compte. Jakindala a bénéficié de la trace présidentielle de décembre 2024, sauf qu'il est toujours en détention. On sait que le dossier Jakindala est plutôt du cas politique. On envisage de le ramener à la prison malgré son état. On lance un appel à la communauté internationale de rappeler à la République démocratique du Congo que ces prisons ne doivent pas être des mouvoirs. Deuxième chose, que le chef de l'État rappelle que l'ordonnance présidentielle est son expression la plus absolue. Nous prions à ce que la communauté internationale, les autorités, aient la capacité de faire fléchir ceux qui sont au pouvoir, de permettre à ce que Jakindala sorte du territoire national pour aller se faire soigner et lui
contacté, l'administration pénitentiaire rejette ces allégations qu'elle qualifie de tentatives de manipulation de l'opinion. Selon une source pénitentiaire, Jakindala serait en bonne santé. Coopération policière, moteur d'une police intelligente et moderne. C'est le thème de la troisième journée internationale de la coopération policière ouverte ce mardi 9 septembre à Kinshasa. Elle a été instituée par l'ONU en 2023. Elle vise à établir un lien de confiance entre la police et les citoyens, notamment par les biais de la police de proximité pour construire des sociétés plus sûres. C'est le vice-premier ministre de la fonction publique qui a donné le coup d'envoi. Il a représenté son homologue de l'intérieur. Des journées portes ouvertes sont aussi organisées à cette occasion. Précision avec Lucky Nzao.
Il s'agit des trois journées portes ouvertes qui s'étalent du 9 au 12 septembre au commissariat général de la police. Pour l'ouverture ce mardi, le ministre de la fonction publique, Marcel Liaou, a fait le tour des stands avant de s'exprimer en ces termes.
J'ai pu prendre la mesure du travail des fourmis qui est en train de s'accomplir ici avec de nombreux partenaires qui nous accompagnent dans ce travail de réforme de la police et faire en sorte que nous ayons une police citoyenne qui soit véritablement au rendez-vous de résultats en termes de la mission régalienne de protéger les personnes et leurs biens.
Galons, grenades lacrymogènes, parmi les matériels exposés au stand de la police nationale. Parmi les partenaires, la MONUSCO montre sur des affiches quelques activités menées dans le cadre de sa collaboration avec la police nationale congolaise. SANRU, une ONG active dans les soins de santé en milieu rural, présente quant à elle des moustiquaires ainsi que d'autres dispositifs de lutte contre la malaria. Albert Mouya sont chargés de communication.
La police nous aide à sécuriser nos dons, notamment des moustiquaires pendant nos activités. Et nous formons les policières en sage-femmes.
Cette cérémonie a connu la participation des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa.
Nous sommes à notre troisième reportage dans notre série de reportages sur les passeports. Pourquoi remplacer une entreprise belge produisant entre 3000 et 5000 passeports par jour par une nouvelle produisant moins que ça? Derrière la crise du passeport en RDC se cache une polémique sur les recrutements de la nouvelle entreprise. Un choix influencé par la présidence selon les agents des affaires étrangères. Enquête de Michel Kifinangoy.
Pendant des mois, la rumeur a circulé. Le nouveau prestataire pour la production des passeports serait une société allemande. Une idée fausse selon plusieurs sources. Des agents du ministère des Affaires étrangères affirment que l'entreprise est en fait congolaise et que son recrutement aurait été influencé par le pouvoir en place.
On nous a imposé cette structure. Ce n'est pas une question de compétences. C'est un choix politique à mon avis. La présidence est derrière ça. Et on en voit aujourd'hui les conséquences avec tous ces blocages.
Un analyste politique qui souhaite rester anonyme souligne le risque d'une telle décision qui met en jeu un document national crucial pour la sécurité et l'identité, estime cet analyste.
Bon, à mon avis, le choix d'un prestataire pour un tel marché ne devrait pas être influencé par des intérêts politiques. C'est un marché trop important. Si le service est défaillant, bon, c'est l'État qui perd en crédibilité, hein.
Cette problématique sur l'identité de l'entreprise soulève des questions sur la transparence de la gestion de ce dossier. Au-delà des dessous politiques, c'est la procédure d'obtention du passeport qui est mise en cause. Et c'est ce que nous allons décrypter dans notre dernier reportage.
Province du Maniema, avant d'aller plus loin, le président du syndicat national des cadres et agents des secteurs de services Syncas Maniema a mis Cissé les Mani plaide pour une meilleure prise en charge des infirmiers. S'adressant au président de la République, il dénonce les conditions de vie difficiles de ses soignants qui passent de longues heures au chevet des malades. Ami Cissé les Mani estime que le salaire actuel des 150 000 francs congolais perçu par un infirmier est largement insuffisant. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Monsieur le Président de la République, je vous supplie de vous impliquer pour que nos revendications faites soient répondues. Parce que vous avez les grands soucis d'améliorer le niveau de vie sociale du peuple congolais. Pourquoi certains des autorités ne veulent pas qu'il y ait cette amélioration? Dans notre ministère, il y a une grande règne faite d'injustice et inégalité sociale lorsque un médecin est ministre de la Santé. Voyez par exemple typique. Infirmier et laboratoire, pendant 8 heures du temps, il touche plus ou moins 80 fois les 100 et les pi. Mais les médecins par jour touchent que 4 fois. Mais pour donner les primes de risque, le médecin reçoit 1 600 000 et l'infirmière congolaise 150 000. Pourquoi cela? Et pourtant les laboratoires et les infirmiers, c'est ce toi qui mérite de recevoir ça par rapport à d'autres gens de la santé. S'il n'y aura pas faisabilité, excellence monsieur le président de la République, prière d'ordonner au ministre national de budget, finance, plan et fonction publique d'appliquer rigoureusement ordonnance loi de 1992 portant équivalence et correspondance à grade de Kinshasa tout comme à l'intérieur du pays. Que tous les licenciés touchent les mêmes montants, qu'ils soient médecins, avocats, infirmiers, militaires, policiers, comptables, agronomes. S'il est licencié, il doit recevoir le même montant comme prime. Il faut que ça soit uniforme.
Actualité internationale.
Grièvement blessé par balle lors d'une réunion publique mercredi 10 septembre, l'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux États-Unis, a succombé à ses blessures. Sa mort a été confirmée par Donald Trump. C'est une conséquence directe des droits de douane américains de 50% sur l'aluminium, alors que jusqu'ici, près de 80% de l'aluminium canadien était acheté par les voisins du Sud. Les exportations de ces métals depuis le Canada vers les États-Unis ont fortement chuté ces derniers mois. Et pour compenser, les producteurs canadiens d'aluminium se tournent vers l'Europe.
L'invité.
La maladie à virus Ebola continue à faire des victimes dans la province du Kasaï. 43 cas, dont 15 décès, sont déjà enregistrés. Cette épidémie est méconnue de certains habitants. Alors, comment pouvons-nous donc l'éviter? Docteur Jean-Pierre Sumba, chargé de la maladie à la division provinciale de la santé, est l'invité de la rédaction. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Jean-Pierre Sumba. Nous sommes à la 37e semaine épidémiologique et on a enregistré la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Boulapé, dans le Kasaï. Alors, en termes plus simples, c'est quoi même la maladie à virus Ebola?
D'accord. La maladie à virus Ebola, on l'appelle fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans les deux mots, les deux premiers, vous avez presque toute la maladie. C'est une maladie qui commence par une forte fièvre, qui ne baisse pas même quand vous donnez tous les produits que nous donnons ici pour la fièvre. Ça ne baisse pas. Et il y a l'hémorragie qui s'ajoute. Comment on va voir cette hémorragie? C'est par exemple la personne qui fait le sel, il y a du sang dans le sel. La personne qui, le crachat, s'est teinté du sang, il peut vomir, il y a du sang. Au niveau du nez, il y a le sang qui peut couler par là. Quand vous regardez les yeux, c'est vraiment tout rouge comme du sang. Mais aussi, on peut voir au niveau de la peau, surtout pour les gens qui ont des peaux un peu blanches, un peu claires. Hein. À ce moment-là, vous pouvez voir des taches d'hémorragie là, au niveau de la peau. Donc, c'est vraiment la fièvre et l'hémorragie. Donc, une forte fièvre et des signes hémorragiques qui peuvent se voir au niveau du corps, dans les vomissures, dans le sel.
Comment ce virus Ebola se transmet-il exactement?
Ok, nous avons dit que la maladie se transmet de diverses manières. Il y a les animaux, les singes, qui hébergent ces virus-là. Il y a aussi les chauves-souris qui sont incriminées. Maintenant, lorsqu'on est en contact avec ces animaux-là, on peut se contaminer. Mais il y a la contamination qui reste, qui est assez grave dès que la personne est déjà malade. C'est la contamination interhumaine d'une personne à l'autre. Tout ce qui est comme liquide sur notre organisme, que ça soit la salive, que ça soit le sang, que ça soit les urines, que ça soit le sel, tout, il y a les virus là-bas. Et dès que vous entrez en contact avec ça, vous devenez aussi malade. Les habits qui sont portés par la personne malade sont contaminés. Tout ce qu'il peut utiliser, les lits, tout ça, ça prend déjà les virus. Soit c'est un virus qui a la propagation très rapide et tue aussi très rapidement. Donc, s'il y a un décès, on ne touche pas les corps parce que les corps, là, c'est vraiment la grande source de propagation de la maladie. Donc, tout ce qui vient de la personne malade est contagieux et quelqu'un d'autre peut se contaminer avec ça.
Quels sont les signes à surveiller, docteur?
Les signes à surveiller, nous avons dit que cette maladie passe par une forte fièvre, des maux de tête, un syndrome grippal. Cette personne devrait déjà passer au niveau des structures de santé pour qu'on puisse déjà dire de quoi il s'agit. Mais maintenant ici, les précautions sont données même au corps médical. Parce que malheureusement, cette maladie tue plus le corps médical à son début. Le corps médical est beaucoup plus concerné aussi dans ces décès. C'est pourquoi les mesures de prévention chez le personnel médical et des rigueurs. Il y a les épis, ceux qui doivent porter pour la protection individuelle. Ils doivent nécessairement porter cela et avoir de l'eau avec le produit pour se laver à chaque consultation. Dès qu'il consulte, un malade termine, il se lave les mains. Il revient pour le deuxième, il se lave les mains, ainsi de suite. Là, ils vont se protéger en prenant aussi les épis comme protection.
Que peut faire donc une personne qui pense être exposée?
Oui, que la personne se sent exposée, c'est pourquoi nous disons que le corps médical est là pour résoudre ces problèmes-là. Le corps médical décidera, est-ce qu'il faut les garder isolés pour voir comment ça évolue ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au niveau des structures de santé qu'on va décider ce qu'il faut faire à ce moment-là.
Et quelles sont les mesures concrètes que la population peut adopter pour éviter la propagation du virus Ebola?
Les mesures là, ce sont les mesures si simples. L'hygiène est de rigueur. Dès qu'il a fait je ne sais pas quel mouvement, tout n'importe quoi, il devrait se laver les mains. Évitez de toucher les animaux. Ça, je l'ai dit. Avec ces animaux-là, vous pouvez vous contaminer. Et quand vous contaminez, vous risquez de contaminer d'abord votre famille. Hein, parce que c'est une maladie qui peut prendre tout un foyer. Il faut bien cuire les aliments, je l'ai dit. Il faut prendre rendez-vous avec les établissements de soins au moindre pépin et demander l'aide s'il le faut.
Merci beaucoup, docteur.
Je vous remercie, madame.
C'était notre invité, docteur Jean-Pierre Soumba, chargé de la maladie à la division provinciale de la santé du Kassai. Il s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal du matin qui a connu la coordination éditoriale de Poli Mouzalia, Dieudonné Nyangassa, Wa Nyangassa, la mise en onde. Vous pouvez encore retrouver ce journal sur toutes nos plateformes numériques. Merci et à bientôt.